problème de la Turquie, c'est que c'est des milliers de kilomètres. Hein. Et il a fait ça dans tous les sens un certain nombre de fois. Courageux, courageux, courageux. Puis alors, il avait le feu, quoi. Il avait le feu au cœur. Hein.
Est-ce que tout cela était dangereux?
Ah, terriblement. Les dangers. La traversée du Taurus était en soi une opération extrêmement dangereuse. Taurus, c'est la grande chaîne qui court tout le long du sud de la Turquie, là. De l'Anatolie. Bon, il n'y avait, pas de banque, il n'y avait pas de rapport financier, il n'y avait pas de, sécurité, il n'y avait pas... Disons quand même, les Romains avaient pacifié la zone. Hein. Tout l'Empire romain dans lequel s'est baladé Saint-Paul avait été pacifié, c'est sûr. Hein. Mais c'était très spartiate, on n'était pas sûr de trouver ni un endroit où coucher, ni un endroit où manger, etc. Hein. Sans parler des brigands et autres...
Alors, a-t-on aujourd'hui une idée précise du périple de Saint-Paul en Turquie?
Alors, je prétends que oui, mais on ne peut pas être affirmatif complètement. Les traces de Saint-Paul, il n'a pas marqué ses pieds dans la poussière. Il y a un certain nombre d'endroits où c'est tout à fait repérable. Hein. Alors, il y a évidemment les grands sites. Bon, on sait que Paul a été à Éphèse 3 ans, hein. Bon, c'est pas rien, ça. Sur les itinéraires, c'est ce qui m'a passionné, moi, parce que... C'est pas très bien connu. Beaucoup de gens ont écrit sur Saint-Paul et n'ont pas été sur place. Donc, sur une carte, ils disent « Ah ben voilà l'itinéraire », mais quand on est sur place, c'est tout à fait différent. Hein.
Alors, quand Paul commence à parcourir la Turquie, de où part-il exactement?
Le premier voyage, il est parti avec Barnabé et le jeune Jean-Marc vers Chypre. Bon, pays connu de Barnabé qui était chypriote. Puis, ayant évangélisé Chypre, Paul décide cette fois-ci de se rembarquer non pas vers Antioche, la grande Antioche sur l'Oronte, hein, mais de partir vers l'Anatolie, etc. Il faut dire que Paul est de Tars, hein. Donc Tars c'est déjà sur la côte sud de la Turquie, c'est en Cilicie. Donc cette fois-ci, ils prennent le bateau vers Pergé, c'est ce que disent les Actes des Apôtres, et c'est très précis. Et puis alors de là, il veut traverser le Taurus. Il a, à mon avis, une idée très précise. Il veut absolument aller à Antioche de Pisidie. Il part pas vers des régions inconnues. Et alors donc, il fait ce premier tour avec tout le petit circuit, Antioche de Pisidie, Lystre, Derbé, Iconium, et retour à Antioche. Puis après ça, alors à chaque fois, il va repasser par ces villes-là. Au deuxième voyage et au troisième voyage, à chaque fois, il repasse par ce petit groupe de villes-là qui sont... sur le haut plateau de l'Anatolie, derrière le Taurus, la première fois en filant vers le nord, vers Alexandrie Troas, et la troisième fois en filant sur Éphèse. Alors par la grande route royale, qui est une vieille route faite par les Perses autrefois, qui devait assurer la communication entre Suse et Sardes.
Paul arrive dans toutes ces petites villes, ces villages, ces endroits où il a envie d'aller. Il trouve quoi? Il trouve déjà de petites communautés chrétiennes où il convertit.
Ah non, il n'y a pas de chrétiens là. Il veut annoncer le Christ à ses compatriotes juifs. Et il commence toujours par parler à la synagogue. Et ce n'est que s'il est mal reçu à la synagogue qu'il va finir après ça par s'adresser aux gens d'origine païenne qui fréquentaient la synagogue et puis après ça aux païens directement eux-mêmes. Parmi les discours de Paul, parce qu'il faut s'intéresser un peu aussi à ce que raconte Paul, il y a dans les Actes des Apôtres, alors revu par Saint-Luc évidemment, mais on a 3 discours de Paul qui sont très intéressants. L'un à Antioche de Pisidie, il s'adresse aux Juifs. L'autre à Lystre, il s'adresse aux païens. Et le troisième, c'est le grand discours d'adieu de Milet. Il fait venir les chrétiens de Milet pour leur faire ses adieux. Et là, c'est un discours aux chrétiens.
Alors, autre chose, Paul aussi a subi la captivité. Où s'est-elle passée, cette captivité?
La tradition est de reconnaître ce qui est explicitement raconté dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire premièrement une captivité à Rome, car effectivement le quatrième voyage, Paul est prisonnier et il va faire un trajet en bateau afin d'être conduit à Rome. Il a fait appel à l'empereur comme citoyen romain. Deuxième captivité, tout à fait prévue, c'est toujours au début de ce quatrième voyage, il a eu des ennuis à Jérusalem, on a réussi à l'arracher aux mains des Juifs qui voulaient le lapider, de lui faire un mauvais sort. Et il est à Césarée, où il reste 2 ans, à cause de l'incurie des procurateurs romains à ce moment-là. Donc c'est encore une longue captivité, même si ce n'est pas une situation de prisonnier épouvantable, hein, parce qu'il reçoit du monde, des tas de gens viennent le consulter, etc. Hein. Ceci dit, il n'y a pas dans le récit de Saint-Luc d'allusion claire à une captivité à Éphèse. Du coup, les lettres où il est question d'une captivité ont été classées. Alors on s'est dit, est-ce que c'est celle de Rome, est-ce que c'est celle de Césarée? Bon, des diverses solutions ont été adoptées. Quand on regarde de près toutes ces lettres de la captivité, il est impossible qu'elles aient été écrites à Césarée ou à Rome. Paul a eu à Éphèse des difficultés énormes, que Luc n'a pas beaucoup souligné parce que quand Luc écrit, il faut à tout prix montrer que Paul n'est pas mal vu des Romains et qu'il a toujours été très correct avec l'autorité romaine. Hein. Mais alors les difficultés, il y a la grande affaire d'Éphèse, n'est-ce pas? C'est la fameuse manifestation des fabricants de petites idoles d'Artémis. Et qui font que, ils ne peuvent plus vendre leurs petites idoles, ça, ils ont peur. Alors, du coup, on fait un grand complot, on amène tout le monde au grand théâtre d'Éphèse, on fait une manifestation fantastique. Il faut lire ça dans les Actes des Apôtres, hein, il suffit de lire, là, c'est raconté avec beaucoup de vie. Quand il revient à la fin de son troisième voyage, il ne s'arrête pas à Éphèse. Il a rencontré de telles difficultés à Éphèse, il a eu de tels périls de mort. Alors ça, il le dit dans les lettres dites de la captivité, hein, que du coup, il ne veut pas s'arrêter à Éphèse parce qu'il dit, si je n'en ressortirai pas vivant, et il donne rendez-vous aux gens d'Éphèse à 100 kilomètres de là. Hein. Milet, c'est quand même au sud, sensiblement, à presque une centaine de kilomètres.
Et que trouve-t-on aujourd'hui à Éphèse de ce passé-là de Saint-Paul ?
Les choses qui sont du temps de Saint-Paul, il y en a des quantités, hein, parce que le théâtre, il faut, quand on joue la fameuse épisode du théâtre, on a ressorti à Éphèse ce qu'on appelle les maisons en terrasse, c'est-à-dire c'est des maisons du 1er siècle, correspondant exactement à ce que Paul a pu rencontrer. Elles n'ont pratiquement jamais été ouvertes au public parce que, il y a eu des travaux qui n'en finissaient pas. Après ça, elles ont été ouvertes un tout petit peu. Puis maintenant, c'est défendu parce que ça, le public abîme tout. Hein. Les murs sont couverts de fresques. C'est tout à fait passionnant. C'est tout à fait la vie quotidienne au temps de Saint-Paul.
Paul, pourquoi on l'appelle le 13e apôtre ?
Eh bien, parce qu'il a joué un tel rôle pour la conversion des païens, parce que nous en sommes des païens. Hein. Il a ouvert l'Église aux non-juifs. Là, il faudrait percevoir ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. On parle d'une conversion de Saint-Paul. Ils ne sont pas convertis. Paul est resté juif jusqu'au bout des ongles, tout du long. Et il le dit lui-même dans ses lettres, il le répète tout le temps. Mais là, il a perçu que Jésus était bien le Christ. C'est-à-dire qu'en Jésus s'accomplissaient les promesses faites à Israël et que la venue de Jésus n'était pas une remise en question du passé, mais un parfait accomplissement. Et en particulier, c'est tout le problème de la loi. Si c'est la loi qui sauve, Jésus n'a aucune raison d'être là. Si c'est Jésus qui sauve, alors, d'une certaine façon, la loi n'est pas nécessaire. On n'a pas à imposer la loi à ceux qui ne sont pas du peuple juif. Une aventure, ça. C'est lui qui a porté l'évangile dans toute cette Asie mineure. J'ai mis le mot Turquie sur mon bouquin parce que ça permet que les gens peuvent localiser les choses. Hein. Mais la notion même de Turquie n'existe pas au 1er siècle. Après ça, après la Turquie, il a évangélisé la Macédoine, la Grèce, Corinthe, Athènes, il a eu quelques petits problèmes, c'est bien connu, ça. Bon, puis après ça, Rome. Après Rome, prétend quelquefois qu'il est retourné en Crète, probablement qu'il a continué. Il y a des gens, des théories tout à fait modernes qui disent que finalement il était revenu à Éphèse et c'est de là qu'il a été pour l'ultime fois arrêté et conduit à Rome pour y être martyrisé.